franceinter.fr.
Bonjour. Les attentats contre Charlie Hebdo et un supermarché cachère en janvier dernier ont choqué la France. Les Français ont surtout été choqués de découvrir que ces crimes avaient été commis par de jeunes Français ayant basculé dans un djihadisme radical, en rupture totale avec la société dans laquelle ils avaient grandi, en rupture aussi avec l'islam tel que le pratique l'immense majorité des Français de confession musulmane. En réponse à ces attentats, le gouvernement français a d'abord pris une série de mesures sécuritaires. Dans un second temps, il vient aussi d'annoncer cette semaine des mesures pour réorganiser les institutions représentatives de l'islam. Le Conseil français du culte musulman, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il n'a pas réussi à tenir son rôle, va être fondu dans une instance de dialogue plus large. Au-delà du débat sur la pertinence de ces décisions, c'est pour nous l'occasion ce matin de nous pencher sur la question de la formation des imams qui officient en France. Le gouvernement veut en effet développer aussi cette formation pour promouvoir un islam de France plutôt qu'un islam en France. Qui sont ces imams? Comment les former et quel peut être leur rôle dans la lutte contre la radicalisation de certains jeunes quand celle-ci ne passe plus nécessairement par les mosquées mais plutôt par Internet? Comment renforcer la présence des aumôniers musulmans dans les hôpitaux et surtout dans les prisons pointées comme un lieu de radicalisation? Quels imams? Pour quel islam? C'est un reportage d'Alain Passerelle.
Interception, le magazine de la rédaction.
Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Donc, on continue le cours qu'on avait commencé il y a quelques jours. Et on va prendre le verset dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Fastaqim kama umirt. Prends le droit chemin qui t'a été recommandé. Wa man taba ma'ak. Wa la tatghaw. Ne tombez pas dans l'exagération. Parce qu'en réalité, l'islam, c'est le comportement. Comment se comporter avec le Coran? Comment se comporter avec le prophète et tous les prophètes? Comment se comporter avec nos parents, comment se comporter avec nos épouses, avec les voisins, avec les musulmans, avec les non-musulmans, et ainsi de suite. Donc, c'est un comportement. Et on n'a pas le droit de tomber dans l'exagération. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
Un soir de novembre, dans la salle de prière de Roissy-en-Brie. Ambiance sereine et studieuse à la fois. Une bonne trentaine de personnes sont assises en tailleur autour de Mohamed Guitoum. Entre les deux prières du soir, l'imam en djellaba blanche répond et l'insage aux questions qui lui sont adressées. Pour lui, c'est quoi un imam?
Un imam, c'est celui qui préside les prières, c'est lui qui répond aux questions des fidèles, c'est-à-dire ce qui concerne la jurisprudence. Aussi, s'il y a un conflit familial, généralement, on se dirige vers l'imam. En réalité, c'est exactement comme l'Église. On fait confiance aux prêtres. Chez les Juifs, on fait confiance aux rabbins. L'imam, c'est lui qui peut garder les secrets, c'est lui qui peut aider les gens, c'est lui, etc., etc., etc. Donc, il se dirige vers l'imam.
D'accord, ça fait beaucoup de travail, ça, non?
On peut dire ça, ça fait beaucoup de travail et ça ne fait pas beaucoup de travail. Tout simplement, aider les gens, des fois, ça fait plaisir. On sert à quelque chose dans ce bas monde.
ce que vous transmettez, vous l'avez appris, et vous l'avez appris d'une certaine manière, c'est-à-dire que on doit être formé pour être ce que vous êtes.
Bien sûr, on l'apprend. On a été dans une institut, Razali. On a étudié là-bas 4 ans, chez des spécialistes. Bon, j'avais étudié un petit peu avant. J'ai étudié la science du hadith. Chez le hadith, c'est la parole du prophète. Chez un spécialiste.
Vous avez une formation théologique, une formation de religieuse, mais vous pensez que quand on est imam en France, on doit avoir autre chose, c'est-à-dire une formation globale sur peut-être, je ne sais pas, la culture française. Et est-ce que c'est important dans cet islam de France ?
Merci beaucoup de cette question, parce que c'est une question qui est très très importante. Il faut qu'on connaisse la culture du pays. Moi j'ai eu cette chance, tous mes professeurs, ils étaient français. Parce que moi, quand je suis né, l'Algérie était française. Donc, on avait cette culture-là. On connaissait un petit peu, on a vécu avec eux. Les jeunes qui sont nés ici, s'ils étudient l'islam, bien sûr, chez des vrais professeurs, chez des gens compétents, chez des gens sincères, là, ils peuvent concilier entre l'islam et les Français. غير المغضوب عليهم ولا الضالين
En fait, c'est une grande responsabilité d'être imam, non ?
Ah oui. Ah oui, c'est une très très grande responsabilité. Ce qui pèse le plus dans cette responsabilité, c'est la confiance de la communauté. Vous êtes pour eux un exemple, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Si demain vous êtes à la gare et vous ne payez pas et vous sautez sur la... quand ça vient de l'imam, c'est énorme. Les gens, ils vous confient leurs secrets. La femme, elle vous dit des secrets entre elle et son mari qu'elle ne peut pas dire peut-être à son mari.
Et vous répondez toujours
ou... Ah oui. Parce que nous, on apprend avec les fidèles, puisqu'on apprend. Il y a des questions que vous n'avez jamais imaginées. Donc vous êtes obligés d'aller et de chercher, etc. Quand on dit « on ne sait pas », on apprend énormément avec les fidèles.
Des questions, comme ça on va pas vous retenir plus, Inch'Allah.
J'ai une question, s'il vous plaît. Donc, moi je suis ici en France, j'ai besoin d'une question. Je prends le téléphone et j'appelle un savant, un grand savant en Arabie Saoudite ou n'importe quel pays pour me répondre d'une question, d'un problème que j'ai ici en France. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ?
Il faut connaître l'endroit. Il y a des questions qui sont limitées par le temps et par l'endroit. On dit al-ada muhakkama. La coutume, elle a son importance si elle ne contredit pas le texte.
Monsieur, vous avez écouté votre imam. C'est important pour vous d'être ensemble et d'écouter l'imam?
Oui, c'est très très important. Nous, on a de la chance. Et pratiquement tous les soirs, on a un cours religieux. Et justement, l'imam, c'est notre guide spirituel dans la mosquée. C'est lui qui nous permet, à travers ses connaissances, à travers son savoir, de nous guider dans l'islam.
Vous avez besoin d'un guide?
Absolument, on a besoin de quelqu'un qui... moi, je n'ai pas le savoir d'un imam. On a de la chance, on a un imam qui a été très bien formé dans la religion, il connaît pratiquement les 4 écoles. En plus, comme il a dit, il connaît la culture française, c'est-à-dire qu'il connaît à la fois le pays... Il connaît la religion. Et ça, c'est très rare en France. En France, on n'a pas beaucoup d'imams qui ont cette formation, cette double formation. Et ça, c'est très important. Et quand on a une question, c'est une question qui concerne notre vie en France, comment on doit se comporter, par exemple dans le mariage ou dans tous les aspects religieux, on s'adresse à notre imam. On n'a pas besoin d'appeler l'Arabie Saoudite ou de chercher des gens qui, certes, ont le savoir religieux, mais ils ne connaissent pas le pays.
Allahu akbar.
Il existe en France actuellement quelques 2500 mosquées et salles de prière pour environ 1700 imams, mais les chiffres varient selon les sources. Certains ont été formés pour cela, d'autres non. Romain Saez est docteur en sciences politiques, auteur de « Être imam en France ». Comment perçoit-il ces hommes qu'il a beaucoup côtoyés, pas forcément comme des guides spirituels ?
L'expression de chef spirituel, de guide, quelque part un peu de gourou, est, me semble-t-il, erronée en ce sens qu'elle présuppose l'existence d'un pouvoir d'influence que les imams n'ont pas. Et ils sont quelque part aussi plus que ça parce qu'ils n'ont pas qu'une seule fonction de conseiller spirituel. Je veux dire, un imam, c'est quelqu'un qui va aussi enseigner l'arabe, les préceptes de base de la religion, les préceptes de base d'une pratique soignée aux enfants, aux adolescents, parfois aux adultes. C'est quelqu'un qui va donner des conseils en privé dans le cadre de ce qu'on appellerait des consultations juridiques. Quelqu'un qui va également chercher à susciter le débat à l'intérieur de la mosquée en créant des cercles de discussion. C'est quelqu'un qui va diriger les prières quotidiennes, les cinq. C'est quelqu'un qui va aussi prononcer un prêche chaque vendredi. C'est quelqu'un qu'on pourra déranger au milieu de la nuit si tant est qu'on a un problème. L'imam, c'est quelqu'un qu'on dérange un petit peu pour tout.
Combien ont été formés à cette, j'allais dire, profession ?
Alors, une enquête donc, qui date déjà d'il y a quelques années tout de même du ministère de l'Intérieur qui recensait à l'époque 1000 imams, considérait qu'un tiers d'entre eux étaient issus de réseaux consulaires, donc essentiellement turcs et algériens. Là, pour le coup, ce sont des gens qui sont dûment formés, hein, de véritables professionnels. Et puis, parmi ces deux tiers restants, là, c'est un petit peu plus flou. On a une partie des imams, c'est ce qu'on a appelé pendant un temps les imams ouvriers, mais qui continuent d'exister, c'est-à-dire des gens qui sont venus occuper en France des emplois non qualifiés, qui sont devenus imams par nécessité pratique, c'est-à-dire qu'il faut bien quelqu'un pour diriger la prière. Et puis on a aussi beaucoup de gens qui sont nés dans les années 60-70 dans des pays musulmans, où là ils ont suivi des formations en sciences islamiques parce que c'est aussi des périodes de réislamisation des pays musulmans. Qui la suivent des formations en sciences islamiques, qui sont nombreux, mais elles ne s'accompagnent pas, ces formations, d'une ouverture équivalente du marché du travail. Par conséquent, on a beaucoup de gens qui sont formés en sciences islamiques, mais qui n'ont pas de travail, donc ils immigrent. Ils immigrent en Europe, pas forcément pour devenir imam, ils immigrent en Europe pour y trouver du travail, et c'est là, un petit peu, où par opportunité, on constate qu'il y a une pénurie d'imams, hein, c'est aussi une époque où on a besoin d'imams en France, le nombre de mosquées se multiplie. On constate donc qu'il faut des imams, et un petit peu comme ça, ils trouvent des débouchés inespérés, mais qui ne leur sied pas toujours, et je veux dire, le turnover est important chez les imams, hein, ça se construit un petit peu comme ça.
Les événements récents sont là pour le prouver, hein, les tensions dans l'islam et dans le monde arabe, dans le monde en général, sont fortes. Vous pensez que les imams ont un rôle à jouer dans tout ça ?
Alors, il est clair, dans ce qui vient de se produire, que les mosquées n'ont pas joué un grand rôle, c'est-à-dire que si les frères Kouachi ont rencontré Ben Yetou dans une mosquée de Belleville, la radicalisation s'est faite après coup. Et se radicaliser impliquait de sortir hors de la mosquée, ne serait-ce que parce que les mosquées sont trop surveillées aujourd'hui pour qu'on puisse s'y radicaliser. Bien sûr, il existe des mosquées radicales, des mosquées qui sont aussi surveillées, tant mieux, enfin, je veux dire, c'est important de savoir ce qui s'y passe, mais elles sont très minoritaires. La radicalisation aujourd'hui s'effectue en dehors de la mosquée, elle s'effectue à travers des réseaux de pères, elle s'effectue essentiellement sur Internet. Donc, à mon avis, les mosquées ne jouent pas un grand rôle dans la radicalisation, néanmoins, elles sont beaucoup impliquées sur le terrain de la prévention, et de plus en plus, et à différents niveaux. C'est-à-dire aussi bien au niveau des fidèles, à qui on explique que le vrai islam, c'est un islam qui est tolérant, c'est un islam qui ne veut pas la guerre, etc., qu'au niveau des prises de position dans l'espace public, où on va rappeler là cette posture, mais à l'intention des non-musulmans surtout, et avec un souci de reconnaissance. Et donc voilà, enfin, je veux dire, les mosquées, alors peut-être pas toutes, mais quand même en grande partie, ne sont pas du tout ignorantes de ce qui pourrait être ou ce qui est leur responsabilité en la matière, et elles ne l'esquivent pas.
Bernard Godard est l'un des meilleurs connaisseurs de l'islam français, conseiller de plusieurs ministres de l'Intérieur. Il a contribué, dans les années 2000, à mettre en place une sorte de formation professionnelle pour imam, un DU, diplôme universitaire, sur 2 ans, complément de la formation théologique initiale de base, dont l'État, bien sûr, ne s'occupe pas. Elle donne aux cadres religieux une connaissance juridique et institutionnelle de la société française. Il y en a 6 actuellement, le gouvernement veut porter ce nombre à 12. Bernard Godard, qui distingue les imams entre eux.
Si vous voulez, un imam en France, enfin en immigration en général, c'est pas du tout la même chose qu'un imam en pays musulman. Un imam dans l'immigration a une responsabilité énorme. D'ailleurs, c'est pour ça que les imams détachés de pays comme la Turquie ou comme l'Algérie ou le Maroc sont quelquefois décontenancés parce que c'est un autre métier. C'est-à-dire, il y a une partie effectivement proprement rituelle, ça c'est une chose, de réponse à des questions vraiment religieuses, mais il y a tout un aspect social qui est important et l'imam est de plus en plus dans l'obligation de répondre à des questions de tout type par rapport à la vie de tous les jours chez les musulmans. Donc du coup, si vous voulez, ces formations, c'est pour amener tout ce qui est nécessaire pour comprendre la société française, en tous ses aspects sociologiques en particulier, mais aussi historiques, que l'imam ou le cadre religieux soit en mesure de répondre à un certain nombre de questions. Un exemple très concret, l'imam n'est pas habitué à être en dialogue interreligieux dans le pays d'où il vient. Et c'est vrai qu'en France, ça revêt une importance particulière. Donc l'imam, quand il arrive, tout de suite, il est présenté aux prêtres, aux rabbins. C'est aussi avoir un dialogue avec le maire, avec le préfet. Et du coup, c'est aussi avoir une notion des institutions, de la place de chacun. C'est un aspect peut-être épisodique, mais qui est très important.
Comment vous la voyez, la situation aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, la situation des cadres religieux en France, est-ce qu'elle vous semble satisfaisante? Vous la voyez comment?
Alors, l'imam, le cadre religieux, il s'est inventé dans l'immigration. C'est-à-dire, il a admis ce rôle qui est au-delà du rôle proprement religieux tel que nous l'entendons, et d'être un conseiller, un guide, en général. C'est plutôt satisfaisant. Je dis bien en général. Ensuite, vous avez quand même un mouvement qui monte, qui est le mouvement salafiste, qui est une vision littéraliste. Alors, c'est souvent le fait de jeunes Français, issus de l'immigration, comme on dit, ou qui sont convertis, ou qui sont d'origine africaine, antillaise, ou voilà. Et alors, c'est très intéressant parce que eux, pour le coup, ils recréent un univers islamique sans aide de personne, par Internet, et par certains prêcheurs intermédiaires. Et ça pose un problème que même les imams, ils en ont conscience, dont ils parlent beaucoup, dont ils savent qu'ils disent « nous n'avons aucune prise sur ces gens-là, ils n'ont pas besoin de nous ». Du coup, on n'est même plus dans la question de savoir si ce sont des gens détachés qui ne connaissent pas la société française. On est bien au-delà de ça. On est avec des gens qui connaissent très bien la société française, mais qui font le choix d'un islam de rupture.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça, contre cet enseignement, j'allais dire, prosélyte et radical?
Il faut qu'on ait peut-être avec les imams une relation de confiance. Il ne faut pas qu'on les tienne en suspicion, en disant « c'est très important ». Là, c'est vraiment lié au sentiment anti-musulman. Pour le coup, plus vous avez un sentiment anti-musulman, moins vous leur faites confiance, moins vous avez de chances d'être un pare-feu, entre guillemets, à des idéologies ou à des visions littéralistes de l'islam.
La semaine dernière, Le Figaro, citant des sources au ministère de l'Intérieur, affirmait qu'il y a aujourd'hui en France 89 lieux de culte très proches des fondamentalistes, véritables couveuses de futurs djihadistes. Il y a en France 3 grands lieux de formation des imams, qui vivent de fonds étrangers, notamment algériens, de dons de fidèles et aussi de droits d'inscription plus ou moins élevés. L'un d'entre eux, qui prodigue un enseignement gratuit, est l'Institut Al-Razali, hébergé à la Grande Mosquée de Paris dans le 5e arrondissement. Visite avec celui qui le dirige, Djelloul Seddiki.
Je pense que c'est l'une des plus belles mosquées, au monde. Pourquoi pas? Parce qu'elle est belle, hein. Donc, vous avez les patios, ça nous rappelle un peu l'Andalousie. Vous avez le hammam, ça nous rappelle un peu le Moyen-Orient, le thé. Des bibliothèques, on peut faire un tour à la bibliothèque. C'est joli. C'est avec la mosaïque, c'est comme on est un peu à Marrakech. Ouais. Puis les jardins. Moi, je rêve d'avoir ici un musée pour les musulmans de France. C'est un projet qu'on a, peut-être, on va le faire. Parce qu'on a inauguré le monument aux morts, qui a 2 points ici. On ne peut former des imams que dans une mosquée. Parce que là, ils sont près du grand imam, ils sont près de leur culte, ils sont près de leur fidèle, ils sont dans l'ambiance. C'est comme en forme un médecin dans un hôpital, quand il veut faire un terme, il va à l'hôpital. Il ne va pas rester dans les bancs de la fac. Ça, c'est très important.
Docteur Sédiki, c'est quoi l'enseignement de l'Institut Al-Razali à la Grande Mosquée de Paris? Comment est-ce qu'on pourrait le définir?
L'Institut Al-Razali, c'est d'abord un institut qui forme les aumôniers et les imams, donc les cadres religieux, suite à la demande expresse à l'époque de M. Pasqua en 93, on a créé cette institution. Il enseigne aussi la culture, la civilisation arabo-musulmane, et il y a un département de l'enseignement coranique, la mémorisation du Coran. Il y a un département de langue arabe pour les gens francophones, qu'ils soient petits ou grands. Il y a aussi un département pour les convertis, les gens qui se convertissent à l'islam. Donc, l'Institut Al-Razali, c'est un institut qui forme les aumôniers. Donc, il y a trois formes d'aumôniers. Il y a les aumôniers des centres pénitentiaires, il y a les aumôniers des hôpitaux, et puis, occasionnellement, on forme les aumôniers militaires. Un aumônier, on le forme en un an ou deux, hein, il est formé. Mais pour les imams, c'est l'équivalent d'une licence. D'ailleurs, il y a un accord cadre entre le ministre de l'Intérieur et le ministre algérien pour que tous les imams qui viennent de l'Algérie passent par l'Institut Al-Razali pour les briefer, pour leur apprendre le français, parce que généralement, ils ne parlent pas le français. Alors que nos fidèles, à 90%, ne comprennent que le français. Et il faut aussi qu'ils sachent un peu dans quel terrain ils vont prêcher. Nous sommes en France. Donc en France, c'est une société laïque. Ça veut dire qu'il faut respecter les lois de la République. Il faut qu'on connaisse un peu l'histoire de ce pays. Donc il faut qu'ils connaissent les institutions, comment ça fonctionne le Sénat, le Parlement. Il faut qu'ils connaissent un peu la culture, la laïcité, etc., etc. Moi, j'appelle ça deux tiers, un tiers. Deux tiers de matière de théologie, un tiers de matière profane. Ça peut aider un peu l'imam à connaître un petit peu la Bible, ce qu'est la Bible, c'est quoi l'Ancien Testament. Enfin, une idée sur les religions autres que l'islam. Et en plus, moi, je tiens beaucoup à qu'ils apprennent un petit peu le droit, la sociologie, la psychologie pour les aumôniers. Quasiment tous mes profs, ils sont diplômés de France, c'est des docteurs de droit, de doctrine, etc. Et je n'ai pas que des musulmans. Il se trouve que j'ai des professeurs catholiques qui enseignent chez moi la culture, la philosophie, la pensée occidentale, d'une manière générale. L'âme de la mosquée, c'est l'imam. S'il n'y a pas un bon imam, vous n'avez pas une bonne mosquée. Il faut donner la vie à nos mosquées. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts, parce que la laïcité ne permet pas à l'État d'intervenir. On est libre de programmer, de former. Personne ne nous embête pour cela. Mais il faut que l'État soit présent, car dans une situation exceptionnelle, il faut prendre des décisions exceptionnelles. Il faut encourager l'ouverture des écoles pour la formation des aumôniers et des imams. Je dis bien école à la française. Mais ce qu'on nous demande, c'est que aidez-nous à vous aider. Vous dites qu'il y a des problèmes, aidez-nous à vous aider.
Autre lieu de formation, bien loin du très chic 5e arrondissement, nous sommes à Saint-Denis, en banlieue parisienne, à l'IESH, Institut Européen des Sciences Humaines, institut privé et payant qui, comme son nom ne l'indique pas, propose des formations théologiques et de langue arabe jusqu'à Bac plus 8. Un institut semblable est installé à Château-Chinon. L'IESH est fréquenté chaque année par plusieurs centaines d'étudiants, dont une petite partie seulement deviendront imams. Mais la formation théologique en attire beaucoup qui, dans la société, simplement, auront leur rôle. Il y a beaucoup d'étudiantes, comme Safia.
Moi, j'écris déjà énormément, et j'ai des idées, je veux les exprimer, et je veux, en fait, réformer donc l'image qu'on a de l'islam. C'est vrai qu'on montre que les extrêmes à la télé, et puis bon, finalement, quand on interviewe des gens, c'est un peu des banalités ce qu'on dit, ou les personnes eux-mêmes n'ont pas compris l'islam. Donc il y a réformer donc cette image, réformer les musulmans eux-mêmes, parce qu'il y a aussi de mauvaises interprétations qui mènent à des extrémismes. Et là, on voit aujourd'hui avec des jeunes qui pensent aller faire le jihad en Syrie, alors que c'est pas du tout du jihad ce qui se passe là-bas. Mais moi, je dis toujours, en fait, un musulman, c'est quoi au juste? C'est un être doué de raison, donc qui sait distinguer le bien et du mal, tel que le conçoit l'humanité. Donc ne pas voler, ne pas mentir, ne pas faire du mal à autrui. Ça, c'est l'islam le vrai. En plus de ça, il y a l'idée d'adoration, donc adorer Dieu et faire les prières. Mais sinon, un musulman, c'est quoi? C'est un être humain tout à fait normal qui est un homme de bien. C'est pas du tout ce qu'on voit à la télé. C'est normal, on court après le scoop. Et aussi, ce qu'il faut, c'est qu'il faut vulgariser en fait cette définition de l'islam et faire comprendre aux gens, les pousser en fait à étudier les choses. Et moi, je veux jouer un rôle dans ça.
Donc ça veut dire que la formation des cadres religieux est extrêmement importante?
Pas que le cadre religieux, parce que moi je ne me destine pas à être dans une association religieuse ou dans une mosquée et faire des prêches. Les femmes ne sont pas imams, mais elles font quand même des prêches. Elles expliquent la religion, comment il faut la comprendre, comment elle doit être dans la vie, comment l'adapter aussi à la France. C'est pas contradictoire, l'islam et la France, c'est pas du tout contradictoire. C'est tout à fait compatible. Et là, on a des exemples vivants, quoi. Donc moi, je me destine peut-être, je ne sais pas encore exactement quoi, certainement à écrire, exprimer mes idées. Et c'est comme dans la politique ou dans l'idéologie ou dans n'importe quel mouvement philosophique. C'est par l'écriture, par la diffusion du savoir. C'est comme ça qu'on construit des idées et qu'on réforme les mentalités. Et moi, je veux participer de cette manière-là.
À Saint-Denis, l'Institut est dirigé par un recteur, Ahmed Djebala. Dans une grande salle impersonnelle, il fait cours aujourd'hui devant une vingtaine d'élèves.
Alors, nous avons également parlé de l'univoque et de l'équivoque dans la sourate Al-Imran, qui nous parle de ces deux catégories des versets coraniques.
Ahmed Djebala a une idée très précise pour revaloriser la fonction d'imam. Selon lui, il faut un statut.
À mon avis, la question de la formation, elle est liée aussi avec le devenir de l'imam, si vous voulez, ou le statut de l'imam. Et à mon avis, il y a des difficultés au niveau du statut, parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de jeunes qui sont formés et qui, à la fin, ils choisissent pas d'être des imams salariés, si on peut dire. Ils veulent travailler comme bénévoles et ils préfèrent, en fait, gagner leur vie par un autre travail. Parce que le statut de l'imam n'est pas suffisamment défini et il n'est pas suffisamment valorisé, à mon avis. Et là, c'est une question qui touche la présence musulmane d'une manière générale. Et du coup, les instituts, ils forment, mais après la formation, il faut qu'il y ait des structures qui puissent accueillir les imams. Il y a une tendance chez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vous disent, moi, je suis un cursus, je fais la formation, mais après, je préfère être un imam qui fait le prêche bénévolement. Je gagne ma vie par un autre travail.
Vous voulez dire que c'est beaucoup une question financière?
Il y a la question financière qui est aussi primordiale, parce que généralement, même les mosquées qui engagent des imams, c'est avec des petits salaires, en fait, qui n'est pas attirant aujourd'hui pour un jeune qui veut s'installer dans la vie. Et il y a aussi la question du statut lui-même. C'est quoi, c'est les compétences de l'imam? Parce que parfois, il y a des problèmes entre l'association qui gère la mosquée et l'imam lui-même pour définir exactement quelle est sa mission, où il doit intervenir. Et parfois, on arrive à des conflits internes. Et à mon avis, bon, les choses, peut-être, ils vont certainement s'améliorer, surtout avec des grandes mosquées aussi, parce qu'ils ont besoin d'engager des imams, que les choses soient plus claires par rapport à la mission confiée à l'imam et par rapport aussi au statut financier pour qu'il soit stable dans sa mission, dans son travail.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
En dehors de cette formation théologique initiale, on l'a vu, Il existe en France 6 universités qui délivrent un diplôme, un DU, sur 2 ans. Sur les quelques 1700 imams de France, aujourd'hui, très peu encore en ont bénéficié. Le premier à avoir délivré ce diplôme, qui s'adresse aussi à d'autres religions que l'islam, a été curieusement l'Institut catholique de Paris, la Cato, comme on dit, université privée. Claude Roel s'y est professeur.
Nous, ce qu'on leur enseigne, c'est vrai pour tous les DU avec des petites spécificités selon la direction, selon la façon dont ça s'est créé, mais vous retrouverez toujours un gros point sur le droit, en particulier du droit des religions, et également tout ce qui concerne les lois sur la laïcité. Il y a des cours de philosophie, il y a des cours d'histoire des institutions françaises, mais aussi européennes. Il y a aussi des cours qui les intéressent beaucoup sur l'impact des religions, et des cours également sur d'autres religions. C'est-à-dire qu'on a des cours sur les religions chrétiennes, les 3 grandes religions chrétiennes, sur la religion juive, et on a aussi des cours sur l'islam qui sont faits par une femme qui n'est pas musulmane. Et ça, c'est très important. Et tout ça, ils sont très, très heureux de ça, vraiment.
Vous pensez que c'est fondamental que les cadres musulmans en France passent par un DU ?
Oui, vraiment. Et ça, c'est le souhait, le vœu de tout le monde, de nos autorités ici, qui sont à la tête de l'ICP, mais aussi du gouvernement. Et là, quelles que soient les universités, il y a vraiment un accord sur ce point. Et je dirais que pourquoi cet accord ? Parce qu'il est sous-tendu par une volonté très grande quand même de l'immense majorité des musulmans qui souhaitent avoir des outils pour mieux avancer dans le schéma républicain qui est le nôtre.
Les imams dirigent les prières, prêchent, conseillent les fidèles dans leur vie quotidienne. Mais il y a aussi tous ceux qui, à l'intérieur de 3 institutions françaises, exercent leur influence. Les aumôniers des armées, de l'hôpital et des prisons.
Bonjour, monsieur Bélé.
Bonjour, monsieur Alain. Oui, ça va.
Allez-y, on rentre.
Mohamed Benakila est aumônier à l'hôpital Beaujon, à Clichy.
Quand vous rentrez dans la chapelle, il y a le bureau de l'aumônerie que je partage avec l'aumônerie catholique. Et les frères catholiques, ils ont laissé un espace pour faire la prière aux musulmans. J'ai été formé à l'Institut Al-Ghazali de la mosquée de Paris. Et je suis parmi la première promotion qu'on a été envoyé de la mosquée de Paris à l'Institut catholique de Paris. Ça m'a beaucoup aidé dans la pratique. Parce que moi, à la base, j'ai fait de l'économie, 5 ans en arrière, vous me dites que moi, vous serez aumônier. Je dis, c'est quoi l'aumônerie ? Ça, j'avais une entreprise, j'étais un commerçant et tout. Et croyez-moi, vraiment, quand je suis arrivé les premiers temps, vraiment, c'était un peu dur.
Dur, pourquoi ?
Parce que premièrement, les gens, ils n'avaient pas habitué à une autorité dans les hôpitaux. Parce qu'avant, on fait appel à l'imam d'un tel ou à une connaissance d'un tel. Et ces gens-là, ils n'avaient pas les outils.
Alors, vous voulez dire qu'à l'hôpital, avant que vous veniez officiellement, il y avait des gens qui passaient et qui pouvaient être prosélytes ?
Tout à fait, oui. Et dans les hôpitaux, vous voyez, c'est un lieu très sensible. Les gens, ils sont vulnérables. Mais heureusement, moi, je crois que la médecine, elle fait partie de Dieu. À partir du moment que le médecin en face de nous, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit musulman, qu'il soit pas musulman, il est là pour soigner. Et le soin, ça fait partie de Dieu.
Et vous voulez dire qu'il y a des gens parmi les prosélytes qui refusent le soin ?
Voilà, tout à fait. Ils vont dire que cette personne-là, c'est pas un musulman et tout, alors il ne faut pas prendre les médicaments.
Vous avez entendu des personnes qui conseillaient aux gens de ne pas prendre
les médicaments ? Oui, j'ai rencontré des gens. Moi, j'arrive, je dis, moi, non, c'est interdit, c'est stop, non.
Et alors ça, c'était il y a combien de temps ?
Il y a 2 ans.
Et donc, vous avez mis le holà ?
Oui. Et l'administration, elle a été démunie en face de ce phénomène. C'est très, très dur. Et des fois, faire des liens, c'est-à-dire faire de la médiation entre les parents, entre les mariages mixtes, et les conflits entre les parents et les enfants. Tout ça, les cultures, vous avez des Africains, des Maghrébins, de l'Asie, du Moyen-Orient. Et il faut mettre en place ce que vous avez en face de vous. C'est pas une mosquée, quoi.
Aumônir à l'hôpital, ça n'est pas toujours facile. Mais que dire des aumôniers de prison, ceux dont il a beaucoup été question ces dernières semaines ? On sait que l'islamisme radical gangrène des maisons d'arrêt.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bon,
c'est M. Larribi Abdelhafid, aumônier, référent de la maison des Hauts-de-Seine de Nanterre, depuis 4 années.
Alors, ça se passe comment ?
Il y a, comme vous le savez, dans la religion musulmane, le jour du vendredi, je suis là-bas, c'est pour présider la prière et le prêche du vendredi. C'est la première tâche. En plus de ça, s'il y a une information qui nous est relevée, soit par l'administration, soit par le détenu lui-même, à ce moment-là, on se rend directement chez le détenu, dans sa cellule. Si on n'est pas sollicité par le détenu, on n'a pas le droit d'y intervenir ni d'y répondre.
Mais est-ce que vous avez affaire, vous, au radicalisme dans les prisons ?
Bon, nous, parce que... on s'entretient avec les détenus et on leur donne quand même la parole. Alors, si ces détenus entendent ce qu'ils veulent entendre de la part de l'aumônier, ils sont d'accord. Lorsque l'aumônier essaye de leur faire comprendre que certaines conceptions, certaines connaissances de la religion laissent à désirer et essaye de les recadrer, de les reformuler autrement, au vu de la religion, comme je le dis, authentique, ils ne sont pas d'accord.
Alors, à quoi vous servez-vous, monsieur Larribi?
Alors, à recadrer ces gens-là.
Mais est-ce que vous y parvenez, vous pensez?
On essaye, malgré nous, on essaye, on ne désespère pas. Donc, de leur donner les bonnes conceptions de la religion, on a réussi pour certains. Mais c'est très, très, très insuffisant. Parce que l'activité d'un aumônier dans n'importe quel établissement pénitentiaire, qui consiste à un créneau horaire maximum de 2 heures, ça ne peut pas faire l'affaire si on a vraiment l'intention de maîtriser cette situation.
Que dire alors des 60 aumôniers de prison supplémentaires promis récemment par Manuel Valls, alors que ceux-ci n'ont pas de statut, ne sont pas payés, simplement défrayés. Annonce gratuite, c'est le cas de le dire. Plus sérieusement, le gouvernement a promis il y a quelques jours l'ouverture prochaine d'une large concertation afin de parvenir cette fois à une véritable organisation hiérarchique de l'islam en France qui prendrait les choses en main et permettrait entre autres de mettre en place une formation cohérente des cadres religieux. Khaled Bencher, proviseur à Cachan, intellectuel, penseur de l'islam, appelle lui à une véritable révolution de l'islam.
C'est à la maison islam de faire de l'ordre au sein de la nation. Donc il incombe aux dignitaires, aux responsables, qui, de mon point de vue, ont failli. Parce que nous n'avons pas vu depuis 2 décennies et plus un colloque d'envergure nationale ou internationale pour dirimer les thèses islamistes. Nous n'avons pas une conférence d'importance pour pourfendre le radicalisme religieux, islamiste, dans nos banlieues ou dans nos cités. Au XXIe siècle, en France, nous ne pouvons plus raisonner avec une théologie éculée. C'est à la refondation de la pensée théologique islamique que j'en appelle personnellement. C'est un travail considérable de faire en sorte de déconstruire l'édifice premier, qui présente beaucoup de fissures, et avec cet agrégat, reconstruire un beau palais. Maintenant, l'exigence est telle que, pourquoi pas, avoir une fondation dite des œuvres de l'islam, financée par des souscriptions nationales, peut-être même internationales si elles sont transparentes, pour construire des instituts d'islamologie appliquée, des séminaires de formation d'imams intelligents. Et donc ça devient une affaire des musulmans eux-mêmes et de leurs responsables. Et en attendant, dès lors que les départements concordataires existent et que dedans on rémunère, en les finançant, la formation des curés, des pasteurs et des rabbins, momentanément et d'une manière transitoire, on pourrait l'étendre aussi aux imams pour régler des problèmes urgents.
Et encore une fois, à travers ça, les imams sont importants.
Importants, et on ne peut pas faire sans eux. Et ils doivent conjuguer leurs efforts dans le faisceau commun convergent des efforts de l'ensemble des concitoyens. Parce qu'ils sont mus à l'unisson avec leurs autres concitoyens d'autres obédiences ou d'autres appartenances, par une très haute idée de la fraternité, de la paix, de la citoyenneté, de la solidarité, de la prospérité pour tous. Gageons que c'est possible et c'est ce que nous devons faire tous.
Allahu Akbar. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر.
Quels imams pour quel islam ? C'était un reportage d'Alain Passerelle, prise de son Georges Thau, Éric Audra, Yvan Turc et Patrice Klein. L'invité d'Interception ce matin pour nous éclairer un peu plus encore sur cette question de la formation des imams est le politologue Olivier Roy, spécialiste de l'islam. Bonjour.
Bonjour.
Dans votre préface au livre de Romain XVI, Être imam en France, vous dites qu'on se trompe souvent en France sur ce qu'est l'imam. En quoi se trompe-t-on selon vous ?
Mais on voit dans l'imam un espèce de prêtre, alors que normalement l'imam c'est simplement celui qui dirige la prière. C'est un petit peu un praticien des rites. Hein. Les bons imams font aussi un prêche le vendredi par exemple. Mais l'imam n'est pas du tout le directeur de conscience qu'est le prêtre et qui est devenu le rabbin ou le pasteur. L'imam n'est jamais ou est rarement l'homme principal de la communauté religieuse locale. La personne qui compte très souvent, c'est, comme le dit Romain XVI, c'est le président de l'association islamique locale. Les imams n'ont pas spécialement de prestige, en France en particulier, mais aussi, je dirais, un petit peu dans le monde musulman en général. Donc on a une christianisation de la fonction d'imam qui est en complet décalage avec ce qu'est réellement un imam. D'où cette impression qu'on ne trouve pas chez les imams ce qu'on attend. On attend toujours chez les imams des gens qui vont prendre position sur les problèmes du jour, des gens qui vont mettre en avant un islam modéré, qui vont être des interlocuteurs des pouvoirs publics. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ils sont pas faits pour ça. Ils sont pas du tout adaptés à ce genre de situation. Et on se trompe d'interlocuteur. Parce qu'on a une vision un petit peu chrétienne de ce qu'est une communauté religieuse.
Du coup, ce besoin de formation des imams, est-ce qu'il est malgré tout, selon vous, réel ? Est-ce qu'il est aussi central que ça ? Ou est-ce qu'on se trompe un petit peu de cible ?
Alors, il y a deux possibilités. Soit on renonce à avoir cette vision un petit peu paroissiale, chrétienne, de ce qu'est un imam, et on laisse les imams être ce qu'ils sont, et on négocie, on discute avec les présidents des associations islamiques, avec les notables, disons, locaux. Soit on admet que l'intégration de l'islam en France suppose que l'imam devienne une espèce de curé, comme le rabbin l'est devenu d'ailleurs, ce qu'ils n'étaient pas du tout au XVIIIe siècle, par exemple. Et à ce moment-là, bien entendu, se pose la question de l'éducation des imams, de la formation des imams.
On a l'impression parfois, quand on entend le reportage, que du côté des autorités, du gouvernement, on aimerait presque qu'ils soient fonctionnaires, ces imams.
Oui, alors ça, il y a un espèce d'impensé chez tous les gouvernements qui se succèdent en France depuis 25 ans sur la question de l'islam. C'est on est officiellement un pays laïque, donc un pays de séparation entre l'Église et l'État. Mais en fait, l'impensé est ce qu'on appelle le gallicanisme au temps de Louis XIV. C'est-à-dire quand le roi, en fait, dirigeait de fait l'Église catholique en France. Et on voit aujourd'hui cette espèce d'inconscient politique revenir en France et tous les gouvernements rêvaient effectivement de fonctionnariser les imams, de les contrôler, voire de les nommer.
Le gouvernement évoque également, alors il parle de formation d'imams, mais il évoque aussi en ce moment beaucoup une réforme du CFCM, du Conseil français du culte musulman. Vous pensez qu'effectivement ce conseil a besoin d'être réformé ?
Ce conseil ne fonctionne pas. C'est-à-dire, il a été mis en place pour répondre à au moins deux fonctions, représenter la communauté musulmane et former les imams. Or, il ne représente pas la communauté musulmane et il ne forme pas d'imams, donc il ne sert à rien. Maintenant, est-ce qu'il faut à tout prix avoir un conseil représentatif des musulmans de France ? Je dirais, la réponse, il faut qu'elle vienne de la communauté. Et manifestement, il n'y a pas une pression de la part de la communauté musulmane, parce qu'il n'y a pas de communauté musulmane, il y a une population musulmane. Si vous discutez avec les associations associations musulmanes locales, ce qu'elles veulent, c'est leur petite mosquée de quartier, où on est entre soi, où on se connaît, où on a une sociabilité, puis voilà, quoi. Ça ne les intéresse pas du tout de former des institutions représentatives. D'autant plus que ces institutions dites représentatives deviennent des enjeux politiques avec les gouvernements étrangers, marocains, algériens et turcs en particulier. Et ça, je crois que beaucoup de musulmans français en ont assez d'être pris en otage, dans le fond, dans des jeux diplomatico-politiques qui ne les intéressent pas. Et paradoxalement, ils séparent beaucoup plus religieux et politique que ne le fait l'État français, qui a une vision extrêmement politique de ce qu'est le religieux.
Et dans cette vision politique, notamment après les attentats qui ont été commis au mois de janvier, il y a bien sûr l'idée de contrer la radicalisation et le djihadisme même dont sont saisis certains. Est-ce que, on entend parler aussi dans ce reportage des aumôniers, notamment dans les prisons, est-ce que renforcer le dispositif des aumôniers dans les prisons peut avoir une efficacité de ce point de vue-là ?
Alors il y a deux choses qui sont très différentes. Les imams des mosquées locales. Les imams des mosquées locales, sur la radicalisation, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent ? Parce que les jeunes radicalisés ne viennent pas chez eux. On ne se radicalise plus aujourd'hui dans les mosquées. Donc ils peuvent prêcher que l'islam est une religion de paix et d'amour, ça n'a absolument aucun impact sur la radicalisation. Par contre, la prison, c'est le lieu de la radicalisation. Donc bien entendu, c'est là qu'il faut faire quelque chose. Et là, l'État peut faire quelque chose, car d'après la loi de 1905, l'État doit permettre la pratique du culte dans les lieux fermés, hein, c'est-à-dire armées, pensionnats et prisons, dans les lieux où les citoyens français n'ont pas la possibilité d'aller à l'extérieur pour pratiquer leur religion. Donc là, il y a un devoir de l'État d'organiser l'islam dans les prisons. Et comme il n'y a pas d'instance représentative de l'islam, comme il n'y a pas d'institution qui peut nommer des imams, eh bien, c'est à l'État de faire le boulot. Je dirais ça le paradoxe. L'État parle de former des imams pour les mosquées de quartier, ce que la loi 1905 lui interdit et ce que de toute façon est impossible à faire. Mais l'État ne fait pas ce que la loi l'autorise à faire, c'est-à-dire organiser l'imamat en prison.
Et 180 aumôniers pour l'ensemble des prisons françaises, à raison de 2 heures par semaine, je crois, c'est vraiment très peu.
Ben oui, surtout qu'encore une fois, ils sont payés à la pièce, si je peux dire. Ils sont payés à l'heure, selon le tarif de la fonction publique, et ça ne va pas chercher très loin. Et il y a parmi eux des gens remarquables. Parce que c'est un peu le paradoxe, autant que j'ai pu m'en apercevoir. Les aumôniers musulmans, autant dans les prisons que dans l'armée française, sont de bien mieux formés et de niveau, je dirais, intellectuel et théologique, supérieurs à ceux de la majorité des imams de quartier. Donc il faut cesser de se focaliser sur les imams de quartier et s'adresser à ces jeunes qui très souvent sont diplômés, qui sont volontaires pour faire justement de l'aumônerie en prison. On a un autre modèle qui est celui de l'armée. L'aumônerie musulmane dans les armées marche très très bien parce que l'armée a été efficace quand elle a décidé de monter une aumônerie musulmane un petit peu sur le modèle de l'aumônerie israélite. Eh bien, elle a mis le paquet et elle l'a fait en 5 ans. Donc qu'on arrête de parler de réforme de l'islam, ça de toute façon ça ne concerne que les musulmans, l'État n'a pas réformé la théologie, et qu'on s'intéresse justement à promouvoir des personnes, des individus, des cadres, qui eux sont dans leur comportement républicain.
Merci Olivier Roy. Je rappelle votre dernier ouvrage en date, « Enquête de l'Orient perdu », publié par Le Seuil. Interception était réalisée ce matin par Franck Aderer, assisté de Juliette Accus. Le mixage assuré par Gaël Braouzek. Je vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de France Inter et vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel Interception.